7h51, minutes 2 degrés sous le soleil avec quelques nuages. Ça va se réchauffer. OK, pas journée aussi chaude que les deux derniers jours, mais quand même, un 10 degrés sous le soleil pour ce mercredi 30 avril. Sinon, demain, pour commencer le mois de mai, c'est soleil avec quelques nuages et un maximum de 12 degrés. Sur les routes, Max?
C'est pas un matin facile, entre autres, dans le secteur des ponts pour repasser de la rive sud à la rive nord. Sinon, la 40 est entre Duplessis et Arcade, bon ralentissement. Quand même, Benjamin sur Capitale-Ouest également. Ça commence à mi-chemin, je vous dirais, entre Seigneurial et Beau-Royal. Et ça reste tough jusqu'à passer Laurentienne. Robert-Bourassa-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est au rouge. Arcade-Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, au rouge aussi. En s'en allant vers Shannon, dans le coin de la base militaire, ralentissement. Laurentienne-Sud vers la rue de la Faune, c'est difficile aussi. Et il y a quelque chose qui semble s'être ajouté. C'est sûr. Seigneurial, il semble y avoir quelques problèmes direction sud vers l'avenue Nordique. Là. Fait que je ne sais pas s'il se passe quelque chose. Là.
Si vous voyez quoi que ce soit, 88-971-1021. Merci, Max. C'est cette semaine qu'on souligne les 100 premiers jours de la présidence, deuxième mandat, de Donald Trump. Et l'heure est au bilan. On va en jaser avec Luc Laliberté, qui est chroniqueur au Journal de Québec et qui enseigne l'histoire des États-Unis et des Amériques au Cégep Garneau. Luc, bon matin.
Oui, bon matin.
Comme toujours, un immense plaisir de t'avoir à Rage Against le matin. Luc, merci pour ton temps.
Ah, écoute, c'est un plaisir sincèrement partagé.
Hey, Luc, juste pour commencer, pour bien mettre la table, juste nous expliquer, là, côté histoire d'ailleurs, pourquoi on souligne le 100 premier jour de la présidence d'un président des États-Unis? Ça vient de où, cette idée-là?
Ah, c'est très intéressant parce que la comparaison, d'ailleurs, entre les deux présidents, elle est tout aussi intéressante. On a commencé ça, 1929, c'est le crash boursier. S'ensuit une crise économique dont on ne va sortir aux États-Unis qu'avec l'entrée dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un président fort important dans l'histoire américaine, qui est Franklin Delano Roosevelt, qui va être élu en 1932. Et il va y aller d'un train de mesures qui, jusqu'à la période actuelle, va être inégalé. Donc, il va s'activer énormément en disant la façon classique ou les moyens qu'on utilise habituellement dans des périodes de crise économique, ça ne fonctionne pas. Il va innover, il va lancer une série de mesures qui vont provoquer beaucoup, beaucoup de réactions, entre autres l'opposition des tribunaux et la Cour suprême. Donc, quand Franklin Delano Roosevelt entre en fonction, on a remarqué que pendant ces 100 premiers jours, on a l'impression, formulation un peu plus cavalière, qu'il tire un peu partout, et okay, qu'il innove, qu'il bouscule les façons de faire traditionnelles.
C'est ce qu'on vit présentement en 2025, Luc?
Voilà, c'est la raison pour laquelle je compare les deux, c'est depuis Franklin Delano Roosevelt. Donc, on commence ça en 1933, et jusqu'à ce deuxième mandat de Donald Trump, il n'y a aucun autre président qui nous a rappelé ce que Franklin Delano Roosevelt a fait. Maintenant, Donald Trump et Franklin Delano Roosevelt, on va pas, il y a personne qui va dire les deux hommes se ressemblent beaucoup au plan de la personnalité, du programme. Au contraire, Donald Trump, presque une centaine d'années plus tard, une des choses qu'il fait, c'est d'abattre ce qu'a mis en place Franklin Delano Roosevelt. Mais donc, si les deux hommes ont des programmes et qu'ils ont des personnalités différentes, ça demeure la période actuelle comparable en termes d'effet puis en termes de retombées à ce qu'avait fait Franklin Delano Roosevelt. Donc, ça rappelait à tout le monde pourquoi, finalement, on calcule ça. On a moins ça, nous, au Canada et au Québec. Là, on se prononcera probablement pas sur ce que fait M. Carney au bout de 100 jours. On l'a pas fait avec M. Legault au Québec. Mm-hmm. Mais aux États-Unis, c'est devenu un peu un étalon de mesure, si tu veux, depuis 1933.
En raison de cette histoire-là. Luc, il y a plusieurs experts qui parlent de ces 100 premiers jours comme d'un chaos. Je suis pas mal d'accord avec eux. Selon toi, est-ce un chaos volontaire ou un chaos par manque de compétences de Donald Trump?
Moi, je pense qu'il y a un mauvais mélange des deux. Il semble pas y avoir de réelle cohérence. Sinon, une chose, et ça, faut le souligner, il a une énergie qui est débordante et son équipe aussi. Là, pour agir aussi vite que ça,
ça demande
une énergie qu'on le comparera pas à Joe Biden pour ça, mais il y a peut-être des gens qui s'ennuient de Sleepy Joe, c'est le surnom que M. Trump lui avait donné. Donc, mais il y a donc dans cette activité, puis dans le fait en plus qu'il respecte ses promesses. Si on regarde ce qu'il a fait pendant 100 jours, il n'y a personne qui devrait être surpris des points sur lesquels il travaille. Ce qui semble étonner les gens, par contre, si on se fie au sondage, c'est peut-être pas comme ça qu'on pensait qu'il ferait. Et c'est là où je pense à chaos, puis dans certains cas, littéralement, incompétence. C'est qu'il tire sur tout ce qui bouge. Mm-hmm. Chaque jour, il y a une ou plusieurs nouvelles d'importance, là, avec des retombées majeures. Et il y a beaucoup de gens qui peinent, un, à trouver le fil conducteur, puis deux, par exemple, je pense aux services gouvernementaux, est-ce qu'il le fait de manière efficace? Je pense que peu importe les allégeances politiques entre nous qui discutons ce matin mm-hmm. ou de vos auditeurs, si quelqu'un nous promet de rendre l'État ou les services de l'État plus efficaces tout en économisant, je pense qu'il y a plein de monde qui vont écouter. On paie beaucoup d'impôts au Québec en particulier, donc on veut en avoir pour notre argent, on veut rendre ça plus efficace. C'est ce que Donald Trump avait promis en campagne. Mais entre ce qu'il a promis et ce qui s'est passé, là, les gens disent « Oh, on ne pensait pas que ce serait comme ça ». C'est ce que les sondagers, c'est des coupes, on appellerait ça en foresterie des coupes à blanc.
Oui.
On coupe partout, c'est brutal, on regarde pas nécessairement ce qu'on coupe. Puis on s'est rendu compte que même l'administration a dû admettre, oups, on est allé trop loin, faut reprendre des gens, on est en train de saboter certains services, on perd des ressources importantes. Donc, c'est là où je dis, il y a un mélange de chaos, mais dans certains cas, littéralement d'incompétence.
Oui, hey Luc, d'ailleurs, je voulais te demander, y a-t-il une décision ou même, je vais y aller plus loin, y a-t-il un scandale, selon toi, qui a été plus marquant jusqu'ici dans les 100 premiers jours du deuxième mandat de Donald Trump?
Écoute, moi, il y en a, mon Dieu, tu me demandes un, c'est...
Je te mets de la pression, hein?
T'as le choix des cadeaux, Luc.
Voilà, mon ordinateur interne est en train de traiter l'information plus rapidement. Écoute, moi, je vois deux choses majeures, mais au milieu d'un tas de choses qui sont très importantes. Le bras de fer que Donald Trump livre à la justice. Mm-hmm. Qu'un président américain ne respecte pas les tribunaux et qu'il ne respecte pas, finalement, la séparation des pouvoirs en n'obéissant pas à ce que la Cour suprême lui demande de faire, faut remonter encore là Franklin Delano Roosevelt. Lui avait un bras de fer où il avait dit littéralement au juge, il avait laissé planer une menace, on va devancer, pareil, on va fixer un âge limite pour occuper cette fonction-là, ça me permettrait de vous remplacer, ou encore on va augmenter le nombre de juges à la Cour suprême pour qu'il y en ait plus de mon côté, formulons ça comme ça. Chez Trump, donc, s'est fait dicter des choses et il ne se soumet pas. Donc, pour moi, ça, c'est majeur. C'est la séparation des pouvoirs aux États-Unis. L'exécutif, le président, se soumet habituellement à la Cour suprême, qui est le pouvoir judiciaire. Donc, on est déjà dans une situation qui est complexe. L'autre chose que je vois et qu'on n'a jamais vu à ce niveau-là, je me rappelle pas dans l'histoire américaine, c'est que Donald Trump est entouré de gens qui sont très puissants, parmi les plus riches aux États-Unis, dans certains cas, parmi les plus riches de la planète, et il leur donne un accès à la machine et prend des décisions pour faire tomber des barrières qui, finalement, empêchaient ces gens-là de développer des situations de monopole, de s'enrichir encore plus. J'en ai pas contre l'argent. Le problème, c'est que si on leur permet de mettre à mal des barrières, c'est qu'il va y avoir des services et de l'argent de moins pour, appelons ça, l'Américain moyen ou les gens ordinaires. Donc, il y a un conflit d'intérêts, mais qui est immense depuis le début de cette présidence-là. Et ça, je trouve que dans un système, si j'ai un biais en politique très clair, c'est que j'haïs pas ça, la démocratie, finalement.
Oui, c'est ça. Ben, exactement. Et pourtant, c'est la classe moyenne qui l'a élu. Là. C'est le paradoxe à l'heure actuelle qu'on voit dans les 100 premiers jours.
Voilà. Puis ce que je surveille, surtout en politique américaine, où je vais jamais voter. Donc, mon jupon dépasse pas au sens où je vais jamais me prononcer là-bas, c'est qu'on est ailleurs que la rivalité entre ben moi, je suis plus à gauche, je suis plus à droite, je suis plus républicain, je suis plus démocrate. On est avec un président qui, littéralement, défie tout ce qu'il y a de barrières ou ce qu'on appelle des contrepoids là, qui limitent le pouvoir du président. On est dans cette période-là aux États-Unis. Et c'est ça que je surveille et que je trouve pas normal dans le contexte actuel.
Hey Luc, rapidement, en terminant, je veux que tu mettes l'air là-dessus parce que je me dis, à la tonne de décrets que Donald Trump signe, quand est-ce qu'il va devoir siéger au Congrès? C'est la partie que je comprends mal là, de la politique américaine. T'sais, ici, à Québec, il y a l'Assemblée nationale. Il faut que les politiciens soient à l'Assemblée. On débat justement des projets de loi là, en commission parlementaire. Quand est-ce que ça va avoir lieu, ça, aux États-Unis?
Le président ne fait jamais ça, sinon une fois par année, traditionnellement, il fait le discours sur l'état de l'Union.
Okay.
Donc, c'est devenu un grand spectacle télévisé en plus, mais la Constitution disait que de temps à autre, le président devait informer le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat, c'est les législateurs. Donc, on disait de temps à autre, le président doit le faire. C'est devenu par tradition maintenant une fois par année. C'est là où il s'exprime devant les deux chambres réunies, républicains et démocrates. Il dit, voici la situation aux États-Unis, puis grosso modo, ben qu'est-ce que je planifie pour ce qui s'en vient. Mais sinon, le président, c'est une particularité, hein, c'est vrai, nous, notre gouvernement, il siège au Parlement. Mm-hmm. Cette année, ses ministres, qui sont l'exécutif, vont aller au Parlement. M. Legault et ses ministres siègent à l'Assemblée nationale. Donald Trump n'est jamais là. Dans la séparation des pouvoirs, c'est une particularité. Le président est comme tout seul de son côté, et il espère avoir une assez grande influence sur son parti, sur les républicains, pour que ces gens-là, bien sûr, votent en faveur de ses projets ou qu'ils proposent des lois avec lesquelles lui va être en accord. Mais on ne le voit jamais s'asseoir là, sinon pour deux raisons. Il y va pour le discours sur l'état de l'Union et M. Trump, il y est allé deux fois, ou en tout cas, son cas a été discuté deux fois en raison de procédures de destitution. Mais sinon, on le voit pas au Congrès, le président américain.
Il y a un excellent texte de Luc Laliberté dans le Journal de Québec. Ça se trouve facilement. Ça a été publié lundi sur les 100 premiers jours du règne Donald Trump, deuxième mandat aux États-Unis. Donc, allez lire ça. Et Luc, je te le dis, je l'ai mentionné en ondes, je te le dis de vive voix, je retournerai au cégep juste pour m'asseoir dans un de tes cours d'histoire.
Ah, c'est terriblement gentil. Je m'amuse encore. Écoute, il me reste, c'est bien que tu le soulignes, il me reste deux semaines à enseigner, puis après ça, je me concentre strictement sur les médias.
Hein?
Mais je quitte pour faire plus de médias, et non pas parce que j'aime pas être en classe. C'est le plus beau métier du monde, donc je t'accueillerai avec plaisir dans une salle de classe.
Ah, ben ça, c'est sûr. Mais, hey, imagine, je peux pas retourner au cégep. Luc, arrête d'enseigner. Là.
Ça veut dire que Luc va venir nous donner un cours d'histoire américaine ici, dans les locaux de l'Atlas Communication.
Hey, on va faire
on organise ça. On s'organise pour faire ça. J'irai vous rejoindre avec plaisir.
Wow! Hey Luc, merci Luc. Toujours apprécier ton temps. Merci, cher ami.
Parfait. Une bonne journée.
Salut, bonne journée.
Luc Laliberté, qui est chroniqueur au Journal de Québec, je vous le dis, là, excellent texte qui a été publié lundi dans le Journal de Québec sur les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump. Donc, allez lire ça. Et ben, c'est ça. Il enseigne encore pour deux semaines l'histoire des États-Unis et des Amériques au Cégep Garneau.
C'est une véritable bible de l'histoire américaine. T'as vu le lien qu'il nous a fait? 100 ans qui séparent deux présidents avec les 100 premiers jours. Ça doit être pour ça que Donald Trump parle de l'âge d'or de l'Amérique. Il est revenu 100 ans en arrière.
J'adore. Hey, Luc Laliberté.
On en apprend toujours avec lui et c'est toujours très pertinent.
Bon mercredi matin, tout le monde. 30 avril, il est 8h04. Vous êtes à Rage Against le matin et on se retrouve dans quelques minutes. Rage.